nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tine. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver à l'écoute de la radio francophone iranienne. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez à l'écoute. Guerre à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères iranien appelle à une réunion urgente de l'OCI. Les troupes israéliennes forcent les médecins et les patients à quitter l'hôpital Nasser à Khan Younes et une base militaire américaine à Deir ez-Zor à l'est de la Syrie a été prise pour cible par une attaque de missiles. C'était le principal titre de l'actualité. En voici les détails. Lors d'un appel téléphonique avec le secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique OCI, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a demandé une réunion d'urgence du Conseil des ministres de ces organisations pour examiner la situation déplorable à Gaza et prendre des mesures fermes contre les récentes agressions du régime sioniste. Lors de son entretien jeudi avec Hossein Ebrahim Taha, le diplomate iranien s'est penché sur les dernières évolutions dans la bande de Gaza et les agressions commises par le régime israélien contre la Palestine, notamment les récentes frappes sur Rafah et les actions de l'Organisation de coopération islamique. Tout en exprimant ses regrets et condamnant les récentes frappes israéliennes contre Rafah, qui ont tué un nombre de personnes, dont des femmes et des enfants innocents palestiniens, Amir Abdollahian a jugé crucial l'accélération des actions internationales, notamment de la part de l'OCI, pour mettre fin à ces agressions. Se référant à la dernière réunion du Conseil des ministres il y a 4 mois, il a appelé à une réunion d'urgence du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI pour examiner l'actuelle situation désastreuse à Gaza et prendre des mesures décisives contre les récentes agressions du régime israélien. Évoquant la situation humanitaire déplorable dans le nord de Gaza et les pénuries provoquées dans l'accès aux possibilités et aux produits de première nécessité pour les habitants, le chef de la diplomatie iranienne a mis l'accent sur les mesures appropriées et urgentes pour faciliter l'envoi de l'aide humanitaire, en particulier de produits alimentaires, médicaux et pharmaceutiques. Les forces de l'armée sioniste ont pris d'assaut jeudi l'hôpital Nasser à Khan Younes, créant un climat de peur parmi les déplacés et les patients palestiniens dans le complexe médical. Les forces israéliennes ont pris d'assaut l'hôpital Nasser à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, où trouvent refuge des centaines de Palestiniens déplacés ainsi que des malades et des blessés. Les médias locaux ont rapporté que les Palestiniens avaient été attaqués à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Les troupes israéliennes ont ouvert le feu après avoir ordonné aux Palestiniens d'évacuer l'hôpital. Selon les autorités sanitaires de Gaza, certains des Palestiniens qui se trouvaient à l'intérieur ont été chassés par des troupes du régime sioniste. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que la situation à l'hôpital Nasser était catastrophique et que le personnel ne pouvait tout simplement pas transporter les corps à la morgue en raison des risques encourus. Le porte-parole du ministère, Ashraf Al-Ghudra, a déclaré que les troupes israéliennes forçaient près de 100 membres du personnel médical, près de 200 patients et plus de 150 personnes déplacées à entrer dans un vieux bâtiment sordide de l'hôpital sans nourriture. Suite à l'info, 2 militaires de l'armée israélienne ont été tués lors des affrontements avec les combattants de la résistance dans la ville toujours de Khan Younes au cours des 24 dernières heures. En moins de 24 heures, 2 militaires israéliens ont été tués et 15 parachutistes blessés lors des combats à l'ouest de Khan Younes, situé dans le sud de la bande de Gaza, a-t-on appris des mêmes sources. L'armée israélienne a confirmé dans un communiqué que Noam Sheva, 20 ans et membre du 202e bataillon de la brigade parachutiste, a été tué dans le sud de Gaza. Depuis le début de l'opération Tempête d'Al-Aqsa le 7 octobre, l'armée israélienne annonce chaque jour au compte-gouttes le nom de ses militaires tués. Après plus de 4 mois de guerre à Gaza, l'autocensure ne cesse de s'accroître au sein de l'armée israélienne. Selon le journal israélien Yediot Aharonot, des officiers supérieurs de l'armée israélienne, dont le chef d'état-major, ont reconnu que pendant la guerre à Gaza, les soldats israéliens avaient commis des vols, bombardé des maisons et torturé des prisonniers palestiniens. Le journal, citant des officiers supérieurs de l'armée israélienne, a ajouté que les films réalisés sur les crimes commis par militaires avaient été utilisés contre Israël devant la Cour internationale de justice. Le 7 octobre 2023, les groupes de résistance palestiniens ont lancé depuis Gaza une opération surprise baptisée Tempête d'Al-Aqsa contre les positions du régime israélien. Afin de riposter à l'opération surprise Tempête Déluge d'Al-Aqsa, de compenser son échec et d'arrêter les opérations de résistance, le régime israélien a fermé tous les passages de la bande de Gaza et bombarde cette région. Selon le ministère de la Santé siégé à Gaza, plus de 28 000 Palestiniens ont été tués et des dizaines de milliers d'autres blessés depuis le début de la guerre génocidaire menée par Israël. L'actualité aussi, la Syrie. Une base militaire dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie, où sont stationnées les troupes américaines et leurs milices alliées, a été pris pour cible par une attaque de missiles. Les analystes estiment que la récente attaque s'inscrit dans le cadre des opérations de représailles de la résistance contre les troupes américaines déployées dans la région. Pour eux, l'attaque est aussi une riposte au soutien sans réserve apporté par l'administration Biden aux agressions barbares de l'armée israélienne à l'encontre de la population de Gaza. Le service arabe de l'agence de presse russe Sputnik, citant des sources locales, a rapporté que les explosions massives avaient secoué jeudi Green Village, situé dans la province riche en énergie de Deir ez-Zor, près de la frontière irakienne, alors que plusieurs projectiles s'étaient abattus sur une base militaire appartenant aux troupes américaines, non loin du champ pétrolier d'Al-Omar. Aucun bilan n'a encore été dressé sur l'étendue des dégâts infligés à la base américaine, ni sur le nombre de victimes. L'attaque de missiles a été menée à un moment où des convois de camions militaires américains chargés de renforts logistiques sont arrivés dans l'est de la Syrie en provenance de l'Irak voisin. Ces derniers jours ont ajouté les mêmes sources. La résistance islamique en Irak, un groupe de combattants antiterroristes, a revendiqué la responsabilité de la plupart des frappes de représailles contre les bases militaires américaines en Irak et en Syrie. Les États-Unis, alliés historiques d'Israël, fournissent au régime occupant des quantités inestimables d'armes et de munitions depuis le début de la guerre de la bande de Gaza le 7 octobre 2023. Washington a également opposé son veto à toutes les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui appelait le régime sioniste à cesser le plus tôt possible son agression contre la bande côtière. Et le mouvement de résistance libanais Hezbollah souligne que l'axe de la résistance est déterminé à libérer la Palestine de l'occupation et de l'agression israélienne, quel qu'en soit le prix. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais a confirmé que l'axe de la résistance s'associe à la question palestinienne de manière pratique et efficace. Les membres de l'axe de la résistance régionale partagent les mêmes idées. Tous les partis ont été convaincus au sein de l'axe de la résistance que la Palestine sert de boussole et que le fort doit aider le faible. C'est ce qu'a réaffirmé jeudi le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Sheikh Naïm Qassem, lors d'une interview exclusive accordée à la chaîne d'information arabophone iranienne Al-Alam. Tous les membres sont parvenus à un consensus selon lequel l'objectif est la libération de la Palestine, a-t-il réitéré, ajoutant « Nous ne nous soucions jamais du prix à payer pour le soutien à la cause palestinienne. » Au cours des derniers mois, les membres de l'axe de la résistance dans la région se sont engagés dans une lutte commune contre le régime occupant. Cette poussée a commencé avec l'opération Tempête d'Al-Aqsa menée par les mouvements de résistance de la bande de Gaza le 7 octobre dernier, au cours de laquelle les centaines de personnes ont été capturées. Le Hezbollah ainsi que les groupes de résistance irakiens et yéménites ont renforcé cette dynamique en lançant de nombreuses opérations contre les cibles israéliennes et américaines pour protester contre le soutien total de Washington au régime israélien. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. La résistance palestinienne emporte la victoire à Gaza alors qu'Israël et les USA sont à court d'options par l'Irakien Wessam Barani. Les récents rapports faisant état de tensions et de désaccords entre les dirigeants israéliens et américains ou britanniques font partie de la guerre psychologique menée par les médias occidentaux pour détourner les téléspectateurs de la réalité, à savoir que Tel Aviv et Washington sont littéralement liés. Washington et Londres appellent publiquement Tel Aviv à bien réfléchir avant d'étendre sa campagne génocidaire à Rafah. C'est alors que Capitol Hill mène une course contre la montre pour expédier davantage de bombes à l'armée israélienne qui arriveront à Tel Aviv juste à temps pour les larguer sur les civils de Rafah. Néanmoins, la dernière chose que souhaite l'Amérique, c'est une guerre d'usure avec l'axe de la résistance en Asie de l'Ouest. Pourtant, l'armée israélienne s'est révélée incapable de réaliser quoi que ce soit à Gaza. Elle ne peut pas rivaliser avec la résistance palestinienne et cible les femmes et les enfants de Gaza dans le but de faire pression sur le Hamas. Cela a ouvert trois fronts notables en Asie de l'Ouest, les mouvements de résistance anti-israéliens au Liban, au Yémen et en Irak. Le Hezbollah a déplacé des dizaines de milliers de colons israéliens dans les territoires occupés du Nord, de l'aveu même du régime israélien, et a mené plus de 1000 opérations militaires depuis le 7 octobre 2023. Le gouvernement dirigé par Ansar Allah au Yémen a imposé un embargo en mer Rouge sur les navires transitant ou accostant dans les ports de la Palestine occupée, les navires de guerre américains et britanniques déployés dans les eaux et les attaques américano-britanniques contre le Yémen n'ont pas réussi à dissuader l'armée yéménite ni à mettre fin à son embargo sur la navigation maritime israélienne. En outre, les messages indirects envoyés par Washington au Yémen pour mettre fin au blocus naval israélien et les incitations de la Maison-Blanche pour que l'aéroport de Sana'a et le port de Hudaïda soient pleinement fonctionnels, les paiements de tous les fonctionnaires yéménites et les promesses d'éviter d'ajouter Ansar Allah à la liste américaine des organisations terroristes n'ont pas réussi à imposer un changement dans la stratégie de ce pays arabe. La résistance yéménite, opérant depuis le pays le plus pauvre de l'Asie de l'Ouest, a répondu conformément à son histoire nationale courageuse en rejetant tous les efforts américains. Le Yémen affirme que la guerre a commencé à Gaza et se terminera à Gaza. D'ici là, aucun navire israélien n'accostera dans les ports du régime et toutes les attaques américano-britanniques n'ont fait qu'élargir la portée des tirs yéménites vers les navires et navires de guerre américano-israélo-britanniques. Le leader de la résistance yéménite, Abdelmalek Al-Houssi, a salué une victoire majeure pour le mouvement de résistance dans un discours, affirmant que les États-Unis et le Royaume-Uni n'étaient pas parvenus à garantir le passage des navires se dirigeant vers les ports occupés par Israël au cours de la semaine dernière. Ils n'ont pas pu protéger ces navires, ils ne peuvent même plus protéger les navires américano-britanniques, et c'est une victoire réelle et majeure pour nous, s'est-il félicité. Les bases américaines implantées en Irak et en Syrie ont fait l'objet de quelques 200 attaques de la résistance islamique en Irak depuis le 7 octobre, toujours en solidarité avec Gaza. Les attaques américaines sur le sol irakien ont non seulement échoué à dissuader la résistance, mais ont aussi accru leur détermination à mettre fin à l'occupation américaine. Encore une fois, certains analystes des émissions télévisées aux heures de grande écoute ne peuvent s'empêcher de faire grincer les dents en dramatisant un bombardier américain qui a parcouru une si grande distance des États-Unis jusqu'en Irak et a attaqué des infrastructures militaires vitales appartenant au Hashd al-Shaabi à la frontière syrienne dans le plus sûr style hollywoodien. Et alors, quelle est la différence si un avion de guerre américain décollait d'un porte-avions dans la région? Et qu'est-ce qu'une infrastructure militaire vitale? En quelques minutes, la résistance irakienne a de nouveau tiré des missiles sur les bases américaines, infligeant de lourds dégâts. Les États-Unis prétendent qu'ils ne cherchent pas à élargir la guerre dans la région. Mais dans l'état actuel des choses, l'administration Biden se dirige aveuglément vers une guerre d'usure dans la région dans le but de plaire au premier ministre du régime israélien qui, en toute connaissance de cause attise les tensions régionales pour échapper à un procès et à une éventuelle peine de prison.
Bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Presse TV pour notre émission Débat. Si vous avez suivi l'actualité d'aujourd'hui du 12 février 2024, nous allons parler de Rafah. Rafah qui a été pris pour cible cette nuit ou ce matin très tôt, où plus d'une centaine de civils sont mortes et beaucoup sont encore sous les gravats, donc on ne connaît pas encore les chiffres exacts de ce génocide. Nous allons parler donc de Rafah, des conséquences et des possibilités d'une aggravation des tensions dans la région au vu des déclarations diverses à travers les pays du Moyen-Orient. Par la suite, nous allons donc vous présenter un reportage et par la suite faire venir nos deux invités pour en discuter, des invités experts, bien entendu, de l'actualité de la région. Tout de suite donc, je vous propose de regarder le reportage.
Une attaque israélienne contre un refuge pour déplacés palestiniens a fait 25 morts dans le cadre de la continuité de son agression contre les Palestiniens, agression soutenue par les pays occidentaux, notamment les États-Unis. Le régime sioniste a pris pour cible une maison où s'abritaient des personnes déplacées à l'est de Rafah, faisant 25 morts et quelques blessés. Selon la chaîne d'information Al Jazeera, les attaques ont eu lieu samedi 10 février à l'est de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et plus de 25 personnes ont perdu la vie. Dans un communiqué, le ministère de la Santé à Gaza a annoncé samedi soir que le bilan des morts depuis le déclenchement de la guerre s'était désormais élevé à plus de 28 064 personnes et 68 611 blessés. Le régime sioniste a perpétré dans les dernières 24 heures 16 nouveaux crimes dans diverses zones de la bande de Gaza, avec pour bilan 117 morts et 152 blessés, indique le communiqué. Selon le ministère, des milliers de corps sont enfouis sous les décombres ou abandonnés sur le côté des routes, les secouristes ne pouvant les transférer ailleurs à cause des tirs continus des forces israéliennes. Le régime israélien mène une guerre contre Gaza depuis le 7 octobre, après que le Hamas a lancé l'opération Tempête d'Al-Aqsa contre l'entité sioniste en représailles à des décennies d'atrocités commises contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Une trêve courte est entrée en vigueur le 24 novembre permettant l'échange des prisonniers. Dès la fin de la trêve, le 1er décembre, l'armée israélienne a repris sa campagne militaire contre Gaza. Le régime sioniste a imposé un blocus total contre la bande de Gaza et bombarde sans relâche les infrastructures et les quartiers résidentiels.
Nous revoilà donc sur le plateau. Tout de suite, je vais vous présenter nos deux invités qui ont accepté d'être nos experts aujourd'hui pour ce débat qui concerne donc Gaza et particulièrement la zone de Rafah. Monsieur Amrouni étant notre expert, notamment expert pour tout ce qui est de la région du Moyen-Orient. Monsieur Amrouni, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour, bonjour à vous, à votre cher invité, M. Cornu, et à tous nos chers téléspectateurs.
Merci, M. Amrouni. Alors, M. Bernard Cornu, vous l'aurez compris, militant, expert également des droits humains, j'ai envie de dire. Mon cher M. Bernard Cornu, ravi de vous avoir avec nous de nouveau aujourd'hui, et cette fois, à 2 jours après que nous avons eu notre dernier débat, centaines de morts sont arrivées ce matin. C'est une journée extrêmement noire, en plus des autres journées déjà qui sont passées depuis le 7 octobre. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, M. Amrouni, on va commencer par vous, si vous le voulez bien. Nous avons eu depuis deux jours des avertissements de la part de différentes personnalités et experts de la région concernant le fait que si l'entité israélienne touchait Rafah ou se permettait d'attaquer, comme il a déjà attaqué Khan Younes ou d'autres régions de Gaza, la situation risque de sortir de son contrôle possible. Alors, au vu de la situation de ce matin, est-ce qu'on pourrait avoir, ce qu'il y a l'Égypte notamment, cette fois, a réagi en disant qu'il pourrait sortir des accords de Camp David. Est-ce que dans ce cas-là, on pourrait se retrouver face à une situation apocalyptique de nouveau au Moyen-Orient? Monsieur Amrouni.
Oui, vous savez que cette opération militaire que mène l'entité sioniste, elle était prévue il y a presque trois semaines. Donc, ce n'est pas une nouvelle opération militaire. Aujourd'hui, l'échec puissant de l'entité sioniste, de l'armée israélienne, même avec l'apport et le soutien des États-Unis, des Occidentaux, elle n'arrive pas à sortir de son échec stratégique. Aujourd'hui, Israël a perdu la guerre, Netanyahou a perdu le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste Israël elle-même. Donc les États-Unis veulent une victoire, même une victoire symbolique. Et cette victoire ne peut venir que si, et seulement si, Netanyahou, le gouvernement en place, pourrait tuer ou capturer ou faire sortir les leaders de la résistance palestinienne, c'est-à-dire Yahya Sinwar et Mohamed Daif. Donc ils cherchent une victoire. Et cette région frontalière avec l'Égypte, là où se trouve aujourd'hui 1 million, à peu près 500 000 Palestiniens, c'est une région très sensible. Les renseignements israéliens pensent que la résistance, le QG de la résistance se trouve à Khan Younes, se trouve dans cette région, que les prisonniers sont tenus dans cette région. Donc, il faut aller au cœur de cette région. Maintenant, la problématique, c'était qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce nombre de réfugiés. Je pense qu'il y a quelques jours, il y a eu un accord tacite, un accord politico-sécuritaire entre Israël, d'une part, et l'Égypte, la Jordanie et l'Émirat arabe uni pour trouver une solution, c'est-à-dire que l'armée sioniste va mener des opérations militaires ciblées, entre parenthèses bien sûr, et déplacer donc un nombre important de réfugiés dans d'autres régions à Gaza. Parce que les Égyptiens, ils ont dit, nous ne voulons pas, même pas un Palestinien qui passera les frontières. Donc il faut trouver la solution dans Gaza. Donc ils se sont mis d'accord à trouver deux régions sur le littoral dans le sud-ouest de la bande de Gaza, dans deux régions importantes, où ils vont placer à peu près 1 million de réfugiés avec un financement des États-Unis, des Émirats arabes unis pour la création de nouveaux camps de réfugiés, pour la gestion aussi de ces camps, mais aussi les États-Unis doivent payer les frais aux Égyptiens, entre parenthèses. Et donc cette opération, elle va être menée, mais le temps que les États-Unis a donné pour Israël, c'est entre une semaine et 10 jours. Et on sait très très bien qu'il y aura une réunion très importante mardi avec le directeur de la CIA, les responsables des renseignements égyptiens, jordaniens, des Émirats arabes unis, et bien sûr, il y a le Hamas qui est déjà au Caire. Donc, on cherche une solution de sortie pour Israël, mais on va enterrer Netanyahou. Et donc, c'est ça, en fait, l'engrenage. L'engrenage des États-Unis, elle ne veut pas perdre la face vis-à-vis du monde arabo-musulman et elle ne veut pas affaiblir trop Israël. Par contre, elle veut se débarrasser de Netanyahou. Donc, l'équation à trois inconnus, c'est très, très, très difficile à résoudre. Et le prix fort qu'il va payer, c'est toujours les civils palestiniens, malheureusement.
Oui, tout à fait. Les civils qui semblent, ils ont l'impression d'avoir été laissés tomber par l'humanité. Il faut le rappeler, les images de ce matin que notamment Presse TV a partagées sur ses réseaux ont bien montré le désespoir des Palestiniens qui dormaient quand c'est arrivé. On rappelle que c'est arrivé très tôt le matin, donc en plein milieu de la nuit, quand l'attaque de l'entité sioniste a eu lieu sur Rafah. Bernard Cornu, il y a quand même une chose qui semble assez aberrante dans la situation, si on pense à la situation géopolitique. C'est que les États-Unis viennent de sortir de je ne sais pas combien de nombre d'années de guerre, mais notamment avec ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en Ukraine. Ils ont également averti qu'avec le corona et les différents problèmes économiques, les États-Unis n'étaient plus capables de payer. Et pourtant, ils continuent à donner accès à du matériel à l'antisioniste. Alors, d'où vient l'argent? Comment font-ils, sachant que beaucoup d'Américains ont des problèmes pour se nourrir, les Européens d'eux-mêmes? La situation ukrainienne a beaucoup empiré, la situation économique déjà n'est pas extrêmement positive dans l'Union européenne. Alors comment ils font pour continuer cette guerre? En plus, c'est une guerre qu'ils vont payer très cher, puisque l'actualité du monde entier s'en prend au monde occidental, en disant vous avez parlé de démocratie, vous avez parlé de liberté, vous avez fait des guerres, vous avez envoyé des missionnaires en ce nom-là. Et là, on voit tous les jours ce génocide se passer sous les yeux des caméras du monde entier, comme encore une fois, il a été dit et redit, surtout dans cette émission, mais également devant les CIJ, c'est que ça se fait en live. Hein, ces meurtres se font pratiquement, et les gens peuvent le voir, de manière presque instantanée, contrairement à d'autres génocides historiques. Monsieur Bernard Cornu, comment on peut en arriver là, comme une journée d'aujourd'hui, ce matin, quand on se réveille, voir une centaine et bien plus de morts, et on voit les corps, enfin moi personnellement je les ai vus, les images sont atroces, ce sont des images d'enfants qui dormaient et qui n'ont pas eu le temps tout simplement de se mettre en sécurité.
Et le dollar, monnaie des États-Unis, domine le monde. La dette américaine est la plus importante, plus de 3000 milliards de dollars, elle ne sera jamais remboursée. Les étrangers d'autres pays achètent des bons du trésor américain en pensant que la confiance dans l'empire américain est inépuisable, ne sera jamais ébranlée. Donc c'est pour ça que les Américains peuvent, sans faire trop d'impôts, dépenser en utilisant seulement l'augmentation de leur dette, qui est parfois contrôlée par le Congrès, mais chaque année, le plafond de cette dette est augmenté et les Américains ont les plus gros budgets pour la défense et aussi des budgets énormes pour les services de renseignement qui dépassent des centaines, plus de 500 milliards de dollars. C'est énorme, ça leur permet effectivement de développer des moyens de contrôle, des moyens d'observation très précis et donc qu'ils mettent souvent à disposition de l'État israélien pour tuer des gens à distance sans aucun jugement hors toute juridiction internationale. C'est ce drame de la puissance extraordinaire du dollar qu'il faut dénoncer et c'est ça qui permet cette impunité, impunité financière, impunité de la justice. Je rappelle que la Cour internationale de justice a reçu la plaidoirie très documentée, 84 pages, 574 références documentaires dans cette plaidoirie. Donc le monde ne peut pas ignorer les crimes de l'agression israélienne, les crimes de guerre, les crimes génocidaires qui seront vite confirmés parce que tout le monde les voit. Et pourtant, en France notamment, il y a des protestations, mais la France se gargarise qu'un ministre de la Justice qui vient de décéder, M. Badinter, avait plaidé en France pour obtenir l'abolition de la peine de mort, parce qu'il y avait quelques condamnés tous les 10 ans encore en France à cette période-là. Mais les 30 000 morts bientôt de Gaza, principalement des civils, principalement des femmes et des enfants, personne ne réagit, à part quelques groupes de gauche, quelques manifestants dont on ne parle pas dans les médias. Et une délégation française de trois partis de gauche et écologistes s'est rendue récemment à Rafah. On n'en parle pas dans les médias, on n'a pas parlé de leur conférence de presse, de leur témoignage depuis la porte de Rafah à l'extérieur, donc en Égypte, faute de pouvoir entrer, puisqu'effectivement, les Israéliens bloquent l'entrée de tous les journalistes, de tous les dirigeants occidentaux. Même le secrétaire général des Nations Unies s'était présenté tout au début de cette guerre d'agression devant la porte de Rafah. Donc les témoignages pourtant sont connus par la télévision Al Jazeera, par les quelques journalistes turcs aussi qui font des reportages très abondants sur la situation. Mais personne parmi nos dirigeants européens ne réagit, ou en tout cas pas assez fort. L'Espagne un peu réagit, la Belgique, l'Irlande, la France est très molle. Notre ministre d'Affaires étrangères est complètement incompétent. L'autre jour, dans son conférence de presse, il a oublié de citer Jérusalem-Est, alors que dans tous les sites du ministère français des Affaires étrangères, on dit bien que le futur État de Palestine devra comprendre Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est, a été rappelé par M. de Villepin. C'est rappelé sur le site des Affaires étrangères, mais notre ministre des Affaires étrangères, un jeune ministre, ne connaît pas la situation et ne prend sans doute pas le temps de lire toutes les notes qu'il doit savoir, de tout ce qu'il doit savoir pour comprendre. C'est un scandale. Je dis encore une fois, on va faire un hommage après-demain à cet ancien ministre de la Justice qui a plaidé pour l'arrêt de la punition de la peine de mort en France, et on laisse faire Israël plus de 30 000 morts à Gaza, et principalement des civils. Ceci est scandaleux. Il est temps que l'Occident se réveille, que nos gens se réveillent, que les populations se réveillent pour protester contre cette situation intenable, ce deux poids et deux mesures, cette différence entre les quelques morts chez nous en France quand il y a un attentat et les dizaines de milliers de morts qu'il y a, sans compter aussi les plus de 300 morts maintenant en Cisjordanie par des attentats de l'armée israélienne et aussi de quelques colons excités et criminels. Ils s'arment avec la pleine complaisance de quelques ministres de ce gouvernement extrémiste israélien, qu'il faut vite condamner, qu'il faut vite renverser. J'en appelle même au peuple d'Israël pour qu'ils continuent et amplifient leurs manifestations pour changer, pour faire partir ce gouvernement criminel qui sera jugé, j'espère, devant la Cour de justice internationale dès qu'elle pourra confirmer ce qu'elle a dit récemment en janvier suite à la plaidoirie de l'Afrique du Sud, qu'il convient de lire parce qu'elle est très documentée, très riche, et qu'il n'y a rien à ignorer de cette situation criminelle.
Merci M. Bernard Cornu, en n'oubliant pas que cet argent se fait alors que c'est un argent que les pays ne possèdent pas et qui pourrait aider les citoyens concernés, parce qu'à l'heure actuelle, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, beaucoup de familles souffrent de la crise économique. Monsieur Amrouni, alors oui, nous avons entendu donc la plaidoirie, j'ai envie de dire, de Monsieur Bernard Cornu, fort militant, que nous avons toujours plaisir à avoir avec nous. Il est vrai que la situation est vraiment dramatique. Alors oui, Monsieur Bernard Cornu a expliqué que ça va arriver dans quelques jours, qu'en fait l'entité sioniste gagne du temps sur le dos de civils, mais gagne du temps et il va devoir aboutir à un cessez-le-feu. On l'espère tous, parce que chaque jour c'est un meurtre, chaque jour ce sont des meurtres, chaque jour ce sont des amputations aussi d'enfants, des enfants qui ne pourront plus jamais marcher ou utiliser leurs mains ou leurs bras. Ce sont des choses extrêmement cruelles quand on sait comment on peut évoluer sans ce genre de choses, sans ce genre d'organes, sans ce genre de membres. Monsieur Amrouni, quand vous voyez la situation actuelle en Europe où les gens s'expriment, qu'est-ce que vous pensez des propos tenus par Monsieur Bernard Cornu ?
Bien sûr, la situation elle est gravissime, mais il faut noter, c'est drôle dans la politique intérieure française, c'est que la minorité gouvernante de la clique de M. Macron, parce que ce n'est pas une partie politique, c'est un groupe, je ne sais pas d'où il est venu, et ce clique, cette minorité qui gouverne la France, elle s'est alliée avec l'extrême droite. Donc aujourd'hui, on a un peuple français contre ce gouvernement, contre, que ce soit dans sa politique intérieure ou sa politique étrangère, et surtout ce qui se passe en Palestine. Et comme M. Cornu l'a rappelé, la position traditionnelle de la France, c'était une tradition dans la politique étrangère française, cette politique arabe, cette politique qui soutient le peuple palestinien. La France a toujours soutenu le peuple palestinien. Et malheureusement, depuis M. Sarkozy, avec M. Hollande, bien sûr, cette clique, c'est une nouvelle race politique qui gouverne la France, cette race atlantiste, cette race qui ne représente pas les intérêts du peuple français. Et aujourd'hui, c'est-à-dire cette race, elle a toujours dit, elle est anti-fasciste, anti-extrême droite. Et qu'est-ce qu'il fait, M. Macron ? Il est l'allié de Mme Le Pen. Donc, on voit bien que le sionisme en France veut que, dans quelques années, Mme Le Pen sera la présidente. Au prix de quoi ? Au prix du sang des Palestiniens, des bébés, des enfants et des femmes. Donc, M. Macron, comme M. Biden, comme tous les responsables de l'Europe occidentale, sont responsables du sang coulé à Gaza aujourd'hui. On les tient responsables. M. Macron, il y a quelques jours, il continue à parler de Hamas. Il incrime Hamas. Il considère que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de Hamas. Donc, M. Macron, il se trompe. Il sait très très bien lui-même qu'il se trompe. Et il ne représente plus l'intérêt de la France. Donc, même au sein de la France, au sein de la politique française, aujourd'hui, il y a un schisme, il y a une grande différence entre l'opinion publique française qui, il faut le noter, il faut le saluer, depuis le 8 octobre, tous les jours, il y a des manifestations en France. Ce n'est pas simplement à Paris, dans toutes les villes, même dans tous les villages. Monsieur Cornu, il a parlé de la délégation des députés. C'est eux qui représentent la France. C'est eux qui représentent l'intérêt de la France. Parce que je rappelle à ceux qui nous gouvernent qu'il y a, sur la côte française, il y a 120 millions de Maghrébins. Il y a 120 millions, Monsieur Macron, de Maghrébins. Je n'ai pas compté les Africains. Je le dis par rapport à ce qui se passe parce que c'est trop grave. Si on passe la limite, ça ne sera pas qu'à Gaza. C'est-à-dire si on passe la limite, si on laisse cette bande de criminels sionistes qui ne représentent pas ni juifs ni aucune religion, ils représentent les intérêts d'une clique qui gouverne le monde, comme il a dit Poutine dans son interview, la dernière interview. C'est-à-dire ces gens-là ne représentent ni les chrétiens, ni les juifs, ni l'Occident, ils représentent qu'eux-mêmes. Donc si on laisse carte blanche à M. Netanyahou, au président égyptien, à ceux qui gouvernent les Émirats arabes unis, aux Jordaniens, d'écraser le peuple palestinien à Gaza, eh ben, tout le monde va payer le prix.
Merci,
et donc il faut arrêter ce massacre. Il y a, comme M. Cornu l'a rappelé, il y a 30 000 morts, mais je dis moi, il y a 150 000. Il y a 150 000 entre morts, déplacés, des gens malades, des gens blessés, des gens qui ont besoin de manger. C'est-à-dire, à Gaza, aujourd'hui, ceux et celles qui ne meurent pas avec les bombes américaines, ils meurent parce qu'ils n'ont pas à quoi manger et à quoi se soigner. Donc, aujourd'hui, M. Macron, les responsables de l'Europe, ils continuent d'être aveuglés. Ils ne sont pas aveuglés. Ils sont complices. Ces gens-là, ils n'ont aucune humanité. On l'a vu comment ils parlent. On l'a vu comment ils traitent les Français. C'est-à-dire comment ils traitent leurs propres citoyens. Alors, s'ils traitent leurs propres citoyens de cette façon-là, aujourd'hui, on est des esclaves de ce système. Et donc, comment voulez-vous qu'ils traitent les Palestiniens ou les Afghans ou les Irakiens ? Ils s'en fichent. Eux, ils envoient leurs bombes, ils envoient leurs technologies, ils sont très contents de nous montrer comment ils ciblent avec des missiles performants et comment ils tuent les gens. Et nous, on est « Oh là là, quelle intelligence artificielle !» Vraiment, ils ont une intelligence diabolique artificielle, ces
Merci,
gens-là.
Monsieur
et malheureusement, ces gens-là, ils gouvernent le monde.
Merci, monsieur. Il y a un point avant que la fin du débat n'arrive et ça, dans deux minutes, le débat prendra fin. Monsieur Bernard Cornu, je vous pose cette question. Alors, il y a depuis 40 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu toujours des violences dans le Moyen-Orient. Il y a toujours eu des violences en Afrique. Et on a toujours mis sur le dos donc des Africains ou du Moyen-Orient en disant ça fait partie de leur culture d'être, excusez-moi l'expression, d'être des sauvages, entre guillemets. Ça fait partie de leur culture de se battre. C'est eux qui provoquent tout ça. La différence aujourd'hui, et si c'est peut-être la seule victoire qu'on veut parler sur la situation au Moyen-Orient, c'est qu'on a bien vu d'où venait la source des armes, d'où venait la source du conflit, puisqu'il a été avéré, prouvé et reprouvé que tous les membres de l'entité sioniste étaient européens et non pas, ne venaient pas du tout de la région. Tous ceux faisant partie de la Knesset ou même du Parlement, du gouvernement direct de Netanyahou sont des membres de l'Union européenne, des anciens membres de l'Union européenne s'ils ont laissé tomber leur nationalité, je ne sais pas. C'est finalement la seule victoire pour l'instant à l'heure actuelle du monde arabe, j'ai envie de dire, du monde du Moyen-Orient.
Oui, moi j'ai bien connu le Moyen-Orient et j'ai vu dans des périodes où il était en paix, j'ai même été à Gaza à des réunions de l'association des femmes dans lesquelles il y avait des communistes, des musulmanes voilées, d'autres pas voilées. Il y avait beaucoup de liberté de parole entre elles, même si elles avaient des opinions politiques différentes. J'ai vécu cela aussi en Syrie et en Irak, avant que des guerres manipulées par les intérêts américains et sionistes provoquent des dissensions, de la fitna dans différents groupes et provoquent souvent la guerre, y compris entre l'Irak et l'Iran. Tout ceci, ce sont des guerres qui ont été provoquées en finançant des groupes pour faire des incidents aux frontières. Et je crois que ceux qui disent des propos sur les peuples attardés, ce sont des gens qui ne les connaissent pas. C'est vrai qu'au début du siècle, c'était le propos officiel du président Wilson, par exemple, qui parlait de « backward people », des peuples attardés. Et certains dirigeants français parlaient de la même chose, parlaient de la mission civilisatrice de l'Occident, alors qu'à l'époque, ils ne connaissaient pas, puisqu'il faut, pour connaître un pays, il faut y aller, il faut connaître la langue, la société, son histoire. Donc le monde est un, et il faut espérer qu'un jour, il y ait une justice universelle dans laquelle les dirigeants de pays criminels comme les États-Unis, M. Bush en 2003, Netanyahou et d'autres dirigeants israéliens, et même la France, puisque la Libye de Kadhafi a été attaquée à partir de manipulations, de faux prétextes. Donc tout cela nécessite une justice universelle, une police universelle pour mettre enfin. Donc ceci Merci. Reste à créer parce que la charte des Nations Unies est encore insuffisante pour cela.
Merci Monsieur Bernard Cornu, je m'excuse de vous précipiter pour tenir ces paroles, mais elles sont éclaircissantes. Merci Monsieur Amrouni également pour votre expertise du jour. J'espère que nos chers auditeurs, ça vous aidera à avoir une opinion différente de ce que la mainstream vous propose tous les jours. Dans tous les cas, nous présentons toutes nos condoléances aux familles palestiniennes qui encore aujourd'hui ont dû subir un massacre. Au revoir et à bientôt.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur les crimes commis par le régime israélien dans la ville palestinienne de Rafah.
Le Royaume-Uni est entré en récession. La plus mauvaise performance depuis la crise financière de 2009, excepté 2020. Le Royaume-Uni est entré en récession au deuxième semestre de l'an dernier. Les taux d'intérêt élevés et l'inflation ayant mis sous pression les finances des ménages et des entreprises, compliquant la tâche pour les conservateurs au pouvoir en pleine année électorale. Le produit intérieur brut, PIB britannique, a reculé de 0,3% au quatrième trimestre de l'an dernier, après avoir laissé de 0,1% au troisième, d'après les chiffres publiés par l'Office national des statistiques jeudi 15 février. Deux trimestres de contraction économique d'affiliés sont généralement considérés par les économistes comme la définition d'une récession dite technique. Sur l'année 2023 entière, le Royaume-Uni affiche cependant encore une légère croissance de 0,1% sur un an, après une croissance de 4,3% en 2022, précise l'ONS, l'Office national des statistiques. C'est la plus mauvaise performance depuis la crise financière de 2009, excepté 2020, quand l'économie britannique avait été paralysée pendant des mois à cause de la pandémie de COVID-19. L'inflation est le plus gros obstacle à la croissance. C'est pour cela que la diviser en deux a été notre priorité, a commenté le ministre des Finances, Jeremy Hunt. L'inflation au Royaume-Uni se situe à 4%. Encore le double de l'objectif de la Banque d'Angleterre, mais fortement diminué comparé à son pic de 11% atteint en octobre 2022. Avec des taux d'intérêt élevés, actuellement à 5,25%, pour que la Banque d'Angleterre puisse faire reculer l'inflation, une croissance faible n'est pas une surprise. Mais il y a des signes que l'économie britannique a passé un cap et les prévisionnistes anticipent de la croissance pour les prochaines années, assure-t-il. L'annonce que le Royaume-Uni est entré en récession technique en 2023 portera un coup au Premier ministre conservateur Rishi Sunak pendant une journée où il risque de perdre deux élections locales, remarque Ruth Gregory de Capital Economics. Le Japon perd sa place de troisième économie mondiale au profit de l'Allemagne. Plombé par la chute du yen ou encore sa démographie en berne, le Japon a cédé sa place de troisième puissance économique mondiale en 2023 à l'Allemagne, selon une première estimation du produit intérieur brut PIB publiée jeudi 15 février. C'est un déclassement symbolique, mais qui en dit long sur la trajectoire de l'économie japonaise. Le pays du soleil levant a perdu en 2023 son titre de troisième puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne, sous l'effet notamment de la chute du yen. Selon une première estimation du produit intérieur brut, Nippon, publiée jeudi 15 février. Le PIB nominal du Japon en 2023 s'est élevé à quelque 4 200 milliards de dollars, contre environ 4 500 milliards de dollars pour l'Allemagne, dont le PIB nominal a été dopé par l'inflation, restée forte l'an dernier dans le pays. Mais en termes réels, c'est-à-dire sans le biais de l'inflation, le PIB nippon a accéléré l'an dernier, plus 1,9% contre 1% en 2022, alors que l'économie allemande s'est-elle contractée de 0,3% selon des données officielles publiées en janvier. Puissance exportatrice, l'Allemagne souffre de la faible demande extérieure, des coûts de l'énergie pour son important secteur manufacturier et des taux d'intérêt relevés par la Banque centrale européenne dans le but de vaincre l'inflation. La dégradation de la conjoncture en Allemagne fait que son nouveau titre de troisième puissance économique mondiale, qui lui était promis depuis octobre dernier par les prévisions du Fonds monétaire international, est perçu comme un trompe-l'œil outre-Rhin. D'autant que l'Inde pourrait dépasser à la fois le Japon et l'Allemagne d'ici quelques années, toujours en PIB nominal libellé en dollars. L'économie bouillonnante du nouveau pays le plus peuplé de la planète, l'Inde, pourrait arriver à leur hauteur dès 2025, selon Brian Colton, économiste chez Fitch Ratings, interrogé par l'AFP. Mais évidemment, le PIB indien par habitant restera bien inférieur à ceux de l'Allemagne et du Japon, a-t-il précisé. Au Japon, les médias locaux ont abondamment commenté la perte par le pays de son troisième rang économique mondial, rappelant qu'au-delà de l'impact exceptionnel de la chute du yen, de puissants facteurs fondamentaux négatifs sont à l'œuvre, comme le déclin démographique accéléré de l'archipel et la faiblesse chronique de sa productivité. Après avoir cédé à la Chine la deuxième place derrière les États-Unis en 2010, à présent le Japon abandonne aussi le troisième rang. C'est lamenté le grand quotidien économique japonais Nikkei dans un éditorial publié samedi dernier. Le Japon n'a pas fait de progrès pour augmenter son propre potentiel de croissance. Cette situation doit être un signal d'alarme pour accélérer des réformes économiques qui ont été négligées, écrit le Nikkei. Comme l'Allemagne, le Japon est une puissance industrielle et exportatrice. Mais son statut est en perte de vitesse depuis longtemps et sa consommation intérieure est actuellement minée par l'inflation et la chute du yen. La déliquescence de la monnaie japonaise a perduré l'an dernier. Moins 7% par rapport au dollar. Elle provient principalement du décalage entre les resserrements monétaires drastiques opérés aux États-Unis et en Europe depuis 2022 et le maintien par la Banque du Japon de son cap ultra accommodant.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.